Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour à tous. Je ne suis pas monté sur la montagne, mais je suis sur l'estrade. Voilà. Je voudrais simplement vous préciser que je n'ai pas le vertige. Alors, on a chanté ce cantique en introduction à notre message. Et nous allons prendre en considération, des choses importantes, me semble-t-il, des choses simples ce matin. Enfin, je le crois. Et je voudrais vous parler de la montagne. C'est toujours l'image de la verticalité, c'est-à-dire ce qui s'élève. Et nous, les hommes, nous sommes souvent dans la vallée. C'est plus facile à vivre dans la plaine que dans les montagnes, bien que ce soit splendide. Il y a des points de vue, des panoramas qui sont magnifiques. Ça peut nous enseigner tout ça. Alors, il y a les montagnes et il y a nos montagnes. Elles sont intériorisées, elles sont là au fond de notre vie, nous les connaissons. Parfois, nos montagnes nous donnent le vertige. Nous pouvons aussi avoir une sorte d'ivresse négative. Nos peines, nos angoisses, nos questionnements, enfin toutes sortes de choses. Et nos montagnes sont souvent synonymes de barrières pour aller d'un endroit à un autre, pour atteindre un but, pour nous rendre d'ici à là. Souvent synonymes d'obstacles, parce que s'il n'y avait pas ces montagnes, alors peut-être que les choses seraient plus faciles dans notre existence. C'est aussi le symbole de la séparation. Oui, nous sommes coupés. Et c'est quelquefois, beaucoup d'embarras. En face des montagnes, en face de nos montagnes, c'est une prise de conscience de notre petitesse, de nos infirmités, de nos incapacités, de nos insuffisances. Alors, ça nous paraît tellement, tellement haut. Et puis, une chose positive, c'est que leur conquête ou la conquête, finalement, de nos montagnes, c'est un ravissement. On va parler de tout ça ce matin. Un ravissement. Imaginez-vous, et nous envoyons quelquefois de splendides reportages, ceux qui sont arrivés au sommet, des sommets qui sont mémorables, à ce moment-là, c'est comme s'ils étaient dans un autre monde. Ils voient tout ce qui est en dessous. Et c'est comme s'ils étaient des oiseaux, des aigles, qui s'envolent, parce qu'il n'y a plus d'obstacles à ce moment-là. Un ravissement. Et vous remarquerez que la Bible nous parle souvent de montagnes. Israël est un pays de montagnes. Alors, des petites montagnes. Mais quand vous allez, par exemple, sur l'Hermon, et ça fait déjà quelque chose, 3000 et quelques, je me souviens, et c'est quelque chose qui compte quand même. Alors après, il y a les grandes montagnes, il y a l'Everest, il y a nos montagnes alpines, et puis bien d'autres choses dans l'histoire du monde. Je vous propose, pour ce faire, ce matin, nous allons lire dans Josué, chapitre 14, quelques versets qui vont nous enseigner. Alors, livre de Josué, c'est le livre de la conquête, c'est le livre de la victoire, c'est le livre des combats victorieux, triomphants. Livre de Josué, chapitre 14, verset 10. C'est un homme que nous allons découvrir qui tient ses paroles, qui tient ses propos, verset 10. « Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. » c'est-à-dire 45 ans avant. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir ou pour entrer. C'est le verset suivant qui nous intéresse. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des grandes villes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je le chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, parce que c'est Caleb qui parle, et il parle à Josué. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénézien, a eu jusqu'à ce jour Hébron en héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim, un homme montagne. On pourrait peut-être dire comme ça si on veut prolonger. Le propos qui nous intéresse, c'est cette demande que Caleb fait à son compagnon qui est Josué, et il lui dit, en rappelant les promesses, en rappelant ce que Dieu avait dit à Caleb, qu'il hériterait un territoire en Israël. Et il dira à Josué, Caleb dira à Josué, donne-moi cette montagne. Il aurait pu peut-être avoir un autre choix. Donne-moi cette plaine. Donne-moi la plaine du Jourdain. Donne-moi les plaines sur la côte. Donne-moi là où véritablement est la vie la plus facile. Mais il dira, mais donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne en héritage. Attendez. En héritage. Parce qu'il y avait un testament. Parce qu'il y avait une promesse de Dieu. Pas la promesse des hommes. Pas une transaction. Mais c'est parce qu'une parole avait été donnée à Caleb et qu'à ce moment-là, Moïse était déjà parti. Et qu'à ce moment-là, eh bien, celui qui était le prince d'Israël, qui remplaçait Moïse, eh bien, c'était justement, eh bien, précisément Josué. Et Caleb s'en souvient. Est-ce que vous vous souvenez du 26 mars, il y a 45 ans? Cherchez bien. Eh bien, lui s'en souvenait. Il s'en souvenait et c'était la promesse de Dieu, l'héritage que lui avait donné. Je voudrais rappeler quelques principes et quelques mémoires, finalement, de cette histoire. Le sujet, donc, de notre méditation, du propos ce matin, comment, frères et sœurs, parce qu'attention, nous sommes tous des fils et des filles de Dieu. Nous sommes tous et nous faisons partie de ses enfants. Et sur chacun d'entre nous, mes frères, il y a une promesse. Alors, il y a la promesse de l'éternité, la promesse du salut. Mais dans notre vie maintenant, parce qu'il ne s'agissait pas une fois qu'il soit mort pour Caleb, dans notre vie, il y a une ou plusieurs promesses. Les connaissez-vous? Est-ce que vous en êtes conscient? Comment hériter les promesses particulières, personnelles que Dieu nous a faites? Que Dieu, dont il nous a parlé. En revenant à notre récit, l'histoire et son contexte. On se souvient que Israël était en route. Il sortait de la servitude, de l'esclavage de l'Égypte, et Dieu leur avait promis à tous, tout le peuple, je vous conduirai dans le pays où coule le lait et le miel. C'est une promesse non seulement aimable, mais c'est une promesse extraordinaire de bonheur, de bien, de repos, de paix, d'épanouissement, de bénédiction de Dieu. Donc de l'esclavage à la vie, à la liberté, à l'abondance. Il faut que l'Église puisse donner l'image de l'abondance, n'est-ce pas? non pas de la tristesse, non pas de la négativité, non pas finalement eh bien une forme à travers notre comportement, nos paroles, notre découragement ou de nos détresses. Non, l'Église, elle est vivante. L'Église, elle est conduite par la vie de l'Esprit dans la joie et dans la paix. Attention, les autres nous regardent, hein. Le monde nous regarde. Le climat spirituel des héritiers. Peut-être certains d'entre vous, vous avez reçu un héritage, ou vous allez avoir un héritage, ou vous attendez un héritage. Je ne sais pas. Il y avait deux catégories en Israël à ce moment-là. Il y avait la foi de deux hommes, mais ça n'est pas beaucoup, hein. La foi de deux personnages, et il y avait d'un autre côté l'incrédulité de tout le peuple d'Israël, deux contre plusieurs centaines de milliers. Disons un mot tout de suite sur l'incrédulité du plus grand nombre. Cette incrédulité était inspirée par la peur et la crainte de l'avenir. Ils étaient sortis d'Égypte. Dieu les conduisait avec des miracles, des prodiges extraordinaires. Ils l'avaient vu, ils y avaient goûté, ils l'avaient connu, tout ça. Ils étaient sortis, ils étaient dans le désert de la liberté, mais on connaît un petit peu le contexte. Et ils étaient, cette incrédulité foncière du peuple d'Israël était inspirée par cette crainte de l'avenir. Écoutez bien la suite. Ils étaient inspirés par la crainte de l'avenir avec Dieu. Avec Dieu. Et là, on se prend la tête parce qu'on se dit, mais comment? Alors, comment font les autres qui n'ont pas Dieu? Comment font les autres qui rejettent Dieu? Ils étaient inspirés par la peur et ils étaient avec Dieu et Dieu était avec eux. Où en était leur foi? Où était finalement leur conviction? Où était tout ce qu'ils avaient emmagasiné de prodiges, de miracles? Ils l'avaient vu, ils l'avaient connu, ils l'avaient mangé, ils l'avaient bu. Tout ça. Et ils avaient la crainte. Alors que Dieu était avec eux. Mes frères et sœurs, moi je dis qu'il faut absolument que nous réagissions dans nos églises, que nous n'avons à avoir aucune peur et aucune crainte, parce que Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, mais qui sera contre vous? Et la question, elle est là. Et il y a deux géants de la foi qui fait face à toute cette multitude d'incrédulité. Ces géants ont vaincu des montagnes, les obstacles. Il y a Josué, je vous l'ai dit, et il y a Caleb. Et reprenons notre Bible. Je vais lire quelques versets pour vous présenter le personnage de Caleb. Toujours chapitre 14, verset 6. Les fils de Juda, donc Israël, s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephunné le Kinésien, lui dit, « Tu sais que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien. » Il est question de Caleb. « À mon sujet. » À Kadès-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadès-Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. En ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi, pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. C'est clair. Ça, c'est extrêmement clair. C'est pas Moïse qui a donné un héritage, mais c'est Dieu qui a dit à Moïse, tu donneras un héritage à deux de ces hommes, ces deux géants de la foi, un à Josué, l'autre à Caleb, et on va s'intéresser à celui de Caleb, c'est très intéressant. Les origines de Caleb. Qui était Caleb? Qui était Caleb en Israël et qui était Caleb dans cette circonstance? Alors vous allez au-devant de surprises. Hein. Oui, vous allez avoir des surprises. D'abord, il est dit Caleb, fils de Jephunné, le Kénésien. Tiens, Kénésien. Où on les trouve? Il y a la tribu des Kénésiens en Israël? Non. Non. Il n'y a pas la tribu des Kénésiens. Les Kénésiens, c'était des Cananéens. C'était les anciens peuples qui ont été chassés. C'était un étranger, Caleb, en Israël. Josué était un pur produit des Hébreux, mais son compagnon, cet homme, Caleb, l'homme de foi, c'était un étranger en Israël. C'était un païen qui va s'attacher au Dieu des Hébreux. Oh, quelle histoire, hein ? Quelle histoire ! Quand on voit une Rahab, quand on voit une Ruth, quand on voit défiler des dizaines et des dizaines dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, ces gens qui ne sont pas d'Israël, qui ne sont pas des Juifs, qui ne sont pas des initiés, la Samaritaine, et puis il y en a bien d'autres, je passerai mon après-midi à vous raconter un peu toutes ces histoires. Mais Dieu déjà, Dieu avait touché le cœur, finalement, de toutes ces peuplades. Comme aujourd'hui, je voudrais vous dire, frères et sœurs, il y a un grand réveil parmi les musulmans. Ils sont persécutés, ils sont mis à mort, etc., etc. Mais il y a un souffle dans le monde actuellement, parmi le peuple musulman. Et peut-être pas directement au contact de la parole de Dieu, mais par des songes et des visions, ils voient Jésus. On dirait, ils sont pas des occidentaux, ils sont pas des chrétiens. Oui, mais justement. C'est extraordinaire ce qui se passe. Nous, on voit ça un peu de notre oreillette dans nos petites vallées étroites, mais ça va beaucoup plus loin. Mais vous serez encore d'autant plus surpris si je vous dis l'origine, pas l'origine, mais la signification de son nom. Caleb, Caleb, Caleb veut dire chien. Oh, vous saviez pas ça? Chien. Et qu'est-ce que c'est qu'un chien pour les Juifs? C'est rien du tout. Un chien, on lui donne un coup de pied là, hop, il dégage. C'était un animal impur, le chien. Et Caleb, ça veut dire chien. Et Dieu va dire que c'est un géant de la foi. C'est peu flatteur, hein? C'est du mépris. C'est un fils d'adoption. Mais est-ce que nous ne sommes pas tous fils d'adoption, nous? Les uns et les autres? Dieu vous a adoptés en Jésus-Christ. Parce que nous n'avions aucune valeur. Nous ne sommes pas des Israélites, mais le salut de Jésus-Christ universel nous a touchés, nous a amenés à nous incliner devant et de reconnaître Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Nous sommes des adoptés, nous sommes des étrangers, nous sommes aussi des païens, nous sommes des rapportés, comme l'on dit quelquefois dans les familles. Hein. Eh oui. Et je voudrais vous dire que si nous parlons de Caleb aujourd'hui, c'est que ce n'était pas un opportuniste. Un opportuniste, pardon, que quand il a vu que les Juifs ou les Hébreux étaient plus forts, il s'est mis tout de suite de leur côté pour dire, eh bien voilà, hein, je me mets du côté du plus fort. C'était pas un opportuniste, c'était pas un gabaonite pour ceux qui connaissent bien la Bible. Vous savez ce que c'est les gabaonites? Ce sont ceux qui trafiquent, ce sont ceux qui par toutes sortes de subterfuges, essaient de gagner la faveur de Dieu par des moyens qui sont détournés. Ce sont pas des Simons de magiciens non plus qui essaient d'acheter le Saint-Esprit à prix d'argent. Non, c'était pas un opportuniste, mais c'était un homme qui avait un cœur entier pour Dieu. On va parler de son caractère à Caleb. Caleb, il nous l'est dit à travers les différentes lignes que nous avons lues, c'était un homme qui ressemblait à beaucoup de juifs pieux. On pourrait dire que Caleb était un intègre, pas un intégriste, hein, mais un intègre. Il avait comme caractère la droiture, la justice, l'amour de la vérité, l'intégrité. Ça, c'est Caleb. D'ailleurs, il le dira, et on lui dira également, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, eh bien, mon Dieu. C'était, on pourrait dire, vous savez, celui qui vient voir Jésus à un moment donné, Barthélemy qui s'appelle, comment il s'appelle dans le livre des Actes? Ah, je me souviens plus du nom, mais c'est pas grave. On le connaît d'ailleurs. Caractère de Caleb, c'est un homme qui sait attendre le temps de Dieu. Alors ça, c'est intéressant. J'avais 45 ans quand j'ai reçu la promesse. Maintenant, j'en ai 85. Vous avez peut-être quelque chose à cœur. Alors moi, je vous donne rendez-vous pour 2036, puis là, vous verrez un peu ce qui va se passer. Hein? Ouais. Il sait attendre les promesses de Dieu. Il n'a pas essayé de faire les choses par lui-même, non, il a attendu. Tout à fait. Il a attendu le terme de Dieu, que Dieu réalise cette promesse, donc 45 ans. Caleb est un homme qui compte sur Dieu et sur la force de Dieu, pas sur la sienne. Pourtant, il dit « je suis vigoureux, je suis plein de vie », etc., etc. Il compte. Et là, quand il va parler, eh bien, il va nous raconter un peu ce qu'il est, et il dira « mais je suis encore vigoureux ». Il a 85 ans à l'époque, hein. Bon pied, bon œil, hein, monsieur Caleb. Hein. Dites donc, hein. Encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya, donc 45 ans. J'ai autant de force que j'en avais à l'heure, soit pour combattre, hein, et la vie c'est souvent un combat, soit pour sortir, soit pour rentrer. Là, on peut voir que quand même il y a quelque chose. Il y a aussi quelque chose dans la caractéristique de Caleb, c'est que c'est un homme qui ne redoute pas les impossibilités naturelles. Les impossibilités naturelles, c'est tout ce qui nous environne, tout ce qui nous fait notre vie. Parce que je voudrais quand même souligner maintenant, parce qu'on le verra tout à l'heure, qu'il y a des impossibilités naturelles et il y a des impossibilités spirituelles. On en parlera. Pour l'instant, il parlera finalement eh bien, de ces impossibilités, parce que quand il va considérer et qu'il va remettre cela devant Josué, il dira « mais dans le pays que Dieu m'a donné, il se trouve des Anakins ». Vous savez ce que c'est les Anakins ? Ah, c'est quelque chose. Ce sont des géants, bien bâtis, hein. Dixit, Goliath, et puis toute la suite, hein. Ce sont des géants. Et il dira, mais il y a des grandes villes, c'est impressionnant, hein. Et il y a des forteresses, des villes fortifiées, etc., etc. Donc, il voit bien qu'il y a des impossibilités naturelles pour avoir son héritage parce qu'il l'a pas encore. Il l'a en promesse. Et il y a beaucoup de choses que nous avons en espérance, mes frères et sœurs. Pour ce temps présent et aussi pour l'éternité. Et à ce moment-là, Josué, ou la Bible, va donner le nom d'Hébron à son territoire. D'Hébron, ça veut dire montagne, plateau, si vous voulez, comme ça, pour héritage. Mais je voudrais vous signaler, parce que nous sommes tous dans la même attente, c'est que donner ne veut pas dire avoir tout de suite, ne veut pas dire posséder tout de suite. Quand nous avons les promesses de Dieu, Dieu nous dit « je te donne ». Et ça ne veut pas dire que « je te donne la guérison ». Je te donne ceci ou cela. Je te donne cette position. Je te donne de remplir telle ou telle chose. Ça ne veut pas dire posséder encore. Toutes les promesses de Dieu s'accordent avec donner. Maintenant, la réalisation de tout cela, en fonction du temps et de l'espace, en fonction de nos dispositions de cœur, ça ne veut pas dire que nous le possédons maintenant. Il y a des choses que Dieu nous a données, promises, données, et nous les avons rapidement. Mais il y en a d'autres, c'est autre chose, hein. C'est autre chose. C'est pour ça qu'il faut pas mêler, faut bien faire attention aux termes que nous utilisons. Parce qu'avec Dieu, pour posséder, je voudrais pas vous effrayer, mais il y a toujours des combats. Et non pas que c'est Dieu qui crée les combats, mais c'est que le diable nous empêche de les avoir. Et il nous empêche de les prendre, de les saisir par la foi. Et c'est là où il faut véritablement une constance, celle de Caleb, pendant 45 ans d'attente, que Dieu donne le feu vert. Alors mes frères et sœurs qui attendaient, qui avaient quelque chose de vraiment dans votre cœur, et je crois à la réalité de ce que Dieu vous a mis dans votre cœur, l'un aura ceci à cœur, l'autre aura peut-être quelque chose de différent, certainement différent. Et vous le savez, et Dieu, et vous êtes convaincus, quelquefois dans vos moments spirituels, vous rappelez, vous vous souvenez en lisant un texte, ou peut-être en entendant un message ou une prophétie qui vous revient en disant « oui, mais je sais que Dieu m'a parlé ». Il m'a parlé dans telle et telle situation, il m'a parlé dans tel temps, et ça me revient, de temps en temps je l'oublie, mais quelquefois ça me revient, et ça revient toujours, et ça revient. Et il y a des combats, il y a des luttes, il y a des dualités à l'intérieur de nous-mêmes. Mais pour rentrer en possession, eh bien, nous nous attachons à la promesse, et elle viendra au temps convenable. Elle viendra au temps de Dieu, et qu'est-ce que nous faisons en attendant ? Ben nous faisons comme l'ami Caleb, nous attendons et nous ne nous décourageons pas et nous ne perdons pas la foi. Hébron est une ville qui existe encore, elle a changé de nom, mais c'est une ville qui se trouve à 30 kilomètres au sud de Jérusalem. C'est pas très très loin. Bon, pour l'époque, les choses étaient un petit peu un microcosme, nous pourrions dire. Mais, et je voudrais quand même vous signaler que cette ville d'Hébron est devenue la première capitale où a régné le roi David. Et ensuite, 7 ans. Ensuite, c'était 33 ans à Jérusalem quand il a fait la conquête de Jébus. Et Jébus est devenu Jérusalem. Enfin, c'est des caractéristiques tout à fait, tout à fait particulière. Donc, des combats pour rentrer en possession. Relisons-le. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris. Alors qu'il s'y trouve des anakins et qu'il y a des grandes villes grandes et fortifiées, c'est ce que nous avons dit. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb. Il l'a béni et lui donna Hébron pour héritage. Voilà, il lui a donné pour héritage. Mais Caleb ne l'avait pas encore. Ce sera la suite. Et qui vient maintenant? Et qui vient? Nous allons parler de la conquête de l'héritage maintenant. Moi, je voudrais réveiller dans votre cœur et dans votre âme, mes frères et sœurs, que vous avez reçu quelque chose de la part de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu. Il vous a établi, il vous a appelé, il vous a élu et il vous a donné quelque chose en propre. Pour vous personnellement, parce qu'un père bénit ses enfants, et il vous a donné peut-être par rapport au service, par rapport à quelque chose que vous avez à cœur et qui va se manifester d'une façon ou d'une autre. Je vous le rappelais, et peut-être en faire un sujet de prière maintenant pour nous réveiller un petit peu, de dire « Seigneur, tu m'as mis à cœur ceci et cela. Ça me semble tellement haut, tellement inaccessible. Ça me donne le vertige. J'ai peur de l'altitude. Je ne serai jamais capable. Je n'y arriverai pas. Je me sens tellement nul. Écoutez bien, mes frères et sœurs, je m'en sortirai pas. Il y a peut-être des frères et sœurs qui traversent des moments difficiles physiquement. C'est une montagne. Il y a peut-être des frères et sœurs qui ont le tournis parce qu'ils sont mal à l'intérieur de leur âme. Hein? On en a parlé dernièrement, là, quand on a tout ce qui nous encombre, tous les encombrements de nos âmes, peut-être à travers un état de dépression chronique, à travers des peurs et des craintes qui nous paralysent. Ce sont des montagnes, tout ça. À travers peut-être cet avenir qui est sombre, l'avenir général pour tout le monde, parce qu'on ne sait pas ce que sera notre monde et notre terre d'ici un an. Je suis court, hein. Peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, et nous nous soucions peut-être pour la vie de ceux que nous aimons, pour l'Église, nous nous soucions pour le monde, parce que vous savez, on s'aperçoit que la mèche est déjà sur le baril, et on a peur que finalement quelqu'un craque l'allumette, hein. Mais c'est ça aussi, hein, pour nos enfants, nos petits-enfants, dans quel monde? Ça peut être ça aussi, mais ça peut être pour le présent, pour nous, aujourd'hui. Alors on va aller à la conquête de notre héritage, parce que Dieu nous a donné, il veut que nous soyons heureux. Je veux que mes brebis soient dans l'abondance, je veux qu'elles soient libres. Conquête de l'héritage. Caleb dit, donne-moi cette montagne, et il insiste. Alors on peut insister quand on attend depuis 45 ans, non? Parce que c'est qu'on n'a pas perdu la mémoire. Une petite digression rapide. En quoi consiste l'ascension d'une montagne? Alors nous, on n'a pas trop l'habitude ici sur Saint-Nazaire, parce qu'à part nos rochers, nos falaises, hein, on craint pas d'avoir finalement le mal des montagnes. Mais on a tous été quelque part dans les Alpes ou les Pyrénées, enfin bon, quelque chose qui soit un petit peu plus constitué que notre bord de mer. L'ascension d'une montagne, mais je voudrais pas vous dire... Je voudrais vous le préciser jusqu'au sommet, parce qu'autrement ça sert à pas grand-chose. Hein. Jusqu'au sommet. D'abord, dans les grandes expéditions, les grandes escalades, il y a un camp de base. Le camp de base, c'est l'image de la préparation. Tiens, je vais aller faire l'ascension de l'Everest, je pars demain matin et je serai peut-être là-haut demain soir. Bon, il faut du courage. La préparation et l'équipement. Et... on voit, malgré toutes les précautions qui sont prises dans le monde, enfin, les alpinistes, quelquefois, ça ne réussit pas non plus, parce que, il y a des facteurs qui sont indépendants de la volonté des hommes. La nature est plus forte que les hommes, faut bien se le dire, on le voit. Et puis, quand je considère de mon camp de base les parois vertigineuses, parce que quand on est en bas, on aperçoit peut-être très très lointainement le sommet, mais on voit un peu toutes les anfractuosités, tout ce qu'il peut y avoir, quelquefois les congères de neige, enfin, toutes sortes de choses semblables. Hein. Et on se dit, mais par où je vais passer? Je voudrais signaler une chose, n'estimons jamais une montagne tant que nous ne sommes pas arrivés au sommet. Et c'est du sommet que l'on peut voir les choses. Mais quand on le voit comme ça, c'est un paysage qui est confus. Et quelquefois, lorsque nous regardons à nos montagnes, à nous, eh bien nous disons, mais quel charivari, mais quel désordre, quel chaos, quel tohu-bohu. Si vous avez été à Chamonix, vous verrez que quand vous regardez les glaciers qui descendent, alors bien sûr après on voit les sommets hein, naturellement, mais quand vous regardez toutes ces anfractuosités, quand vous voyez ces crevasses, quand vous voyez un peu toutes ces choses, les moraines, eh bien vous dites, mais par où je veux passer? Donc ça c'est assez confondant, et quelquefois c'est, nous pouvons le dire pour nos montagnes, mais comment, non pas je vais passer, mais comment je vais m'en sortir? Parce que c'est tellement confus, c'est tellement... Alors, c'est ainsi que se mesure lorsque nous sommes au sommet, mais seulement quand on est arrivé, on ne peut pas en parler avant, eh bien les projets de Dieu pour nos vies. Et quand, à ce moment-là, on est là-bas, on dit, mais Seigneur, dis donc, c'est toi qui as été le guide divin. Tu m'as donné de faire tout ce qui était nécessaire, de m'équiper. Tu m'as donné également de me préparer. Tu m'as donné cet accompagnement. Et là, je comprends que sans toi, Seigneur, j'aurais pas pu m'en sortir. Mes frères et sœurs, qui êtes avec des montagnes à l'intérieur de vos âmes et de vos cœurs, vous pourrez pas vous en sortir vous-même. Je tiens à vous le dire. C'est là où il va falloir mettre tout le poids de votre foi dans le Seigneur. Parce que lui sait la route. Il y en a qu'une. Il y en a qu'une seule pour que vous arriviez au bout. Mais moi, j'ai bon espoir que vous allez y arriver. Qu'il va vous donner tout ce qui est nécessaire pour que vous y arriviez. Cette paroi vertigineuse, qu'est-ce que c'est? Parce que je voudrais aussi vous encourager par une parole, c'est que Dieu sait transformer les obstacles. Votre ressenti qui vous donne le tournis en opportunité et en expérience positive. On est tous passés par là à un moment ou à un autre de notre vie. Conversion après conversion, surtout après conversion. On se retrouve quelquefois dans des impasses, on se dit, mais comment? Comment je vais faire? Eh bien, je voudrais vous dire ce que vous vivez. C'était confirmé par la prophétie ce matin. Et ça, je raconte pas ce que je vais prêcher avant. Hein. Tiens, je voudrais vous le dire. Une chose qui est certaine, c'est que les difficultés, les problèmes, les montagnes, les obstacles que nous rencontrons, Dieu va s'en servir comme opportunité pour que vous puissiez, eh bien, non seulement passer, mais que vous puissiez faire des expériences positives. Et demain, et c'est peut-être la mission de chacun, c'est certainement la mission de chacun, vous rencontrerez des frères et des sœurs qui ont été comme vous, qui ont été quelquefois au fond de la vallée sombre et noire, et vous pourrez leur dire, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, voilà dans telles circonstances, les mêmes circonstances que tu es en train de traverser, et vous pourrez leur dire, eh bien, le Seigneur m'en a sorti. N'est-ce pas un témoignage positif? Parce que vous l'aurez vécu. Vous l'aurez pas vu seulement sur une carte de je ne sais quelle contrée montagneuse, mais vous l'aurez vécu. Et vous aurez une parole de Dieu pour ces hommes et ces femmes, ces frères et ces sœurs qui traversent la même chose. C'est aussi, en quelque sorte, dans l'ascension, en quoi consiste l'ascension, c'est savoir reconnaître les passes. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, nous l'avons dit tout à l'heure, et les voies d'escalade. On ne grimpe pas comme ça, et puis non, parce qu'autrement on va laisser notre vie, hein, c'est pas possible. Donc ça veut dire se laisser conduire par les indications du Saint-Esprit et la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous enseigne, et les indications du Saint-Esprit qui vont nous éclairer sur les passages de la parole de Dieu qui parle à notre cœur. C'est bien ce que nous dit cette belle parole, moi c'est une parole qui reste dans mon cœur en permanence. Quand il est dit, je t'enseignerai. J'aurai les regards sur toi. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. C'est ça les passes. C'est ça la voie d'escalade. C'est ça finalement, eh bien, ce dont nous avons besoin. La parole de Dieu d'abord, et ensuite le Saint-Esprit qui va vous confirmer ça. Les indications du Saint-Esprit à l'intérieur de vous-même. Et il vous donnera le bon chemin. Il vous donnera la bonne voie. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire qu'en tant que conducteur spirituel de cette église, moi je suis convaincu que certains qui disent « je n'en peux pas, je n'en peux plus, je ne sais plus où j'en suis », vous allez vous en sortir mes frères et sœurs. Et on est là pour ça. Enfin, le Seigneur nous a mis ici pour vous le dire. Enfin, tous les cas pour vous encourager. Moi je ne voudrais pas que vous partiez triste, parce que le Seigneur va faire quelque chose pour vous. Combien de fois nous l'avons vécu? Nous personnellement, on se dit « mais c'est fini, on va pas s'en tirer, c'est terminé, il y a des barrières partout ». Non. Si l'on dit avec une telle conviction, c'est que finalement nous sommes des hommes et des femmes qui avons fait l'expérience que Dieu ne lâchera jamais votre main. Ça, c'est clair et net. Et puis il y a la compagnie de ceux qui croient et de ceux qui y croient. Si je m'encorde avec une dizaine d'alpinistes, premièrement, il faut avoir confiance les uns dans les autres. Hein. Parce que quand il y en a un qui dévisse, tout le monde dévisse. Ça, c'est clair. Hein. Et quelquefois, la chute, c'est quelque chose. Donc, c'est une solidarité. On est encordés dans la prière, les uns et les autres. Hein. Et ensemble, mais jamais cavalier seul. Ne vous retirez pas de l'Église. Ne vous retirez pas de vous mettre de côté. Parce que là, vous allez mourir. Vous allez mourir, vous allez dépérir. C'est quand même la communion fraternelle qui va faire la différence. Si je ne prends plus, si je ne viens plus, si même finalement ce repas de Sainte-Cène qui est une fortification de notre vie spirituelle, si je ne prends plus, et on la prend pas seul, on la prend ensemble en mémoire de Jésus qui est le vainqueur. Ne quittez pas. C'est pas une question d'assemblée, c'est pas une question de dénomination, c'est une question de communion fraternelle avec les frères et les sœurs. Autrement, nous nous perdons. Nous allons nous égarer, nous sommes encordés ensemble. Mais quand vous avez quelqu'un, vous en avez 10 qui tiennent finalement la paroi et qui sont en train de monter sur la paroi, mais que vous en avez un qui perd pied, qui est toujours en balancement de droite et de gauche au bout de la corde, mais comment? C'est une tristesse pour ceux qui sont en train de monter et puis de voir finalement quelqu'un qui... Parce que le Seigneur nous donne les forces nécessaires. Faut y croire, et faut vivre avec ceux qui croient encore, qui y croient toujours. Et puis, quand on part en montagne, il faut faire l'examen de la météo. Hein. Il y a plutôt intérêt. Hein. Et ils annoncent les avalanches hein, aussi. Hein. Ils annoncent toutes sortes de choses. Hein. Ce sont dans nos vies d'ascension, pour aller chercher notre héritage et la bénédiction de Dieu, ce sont les changements soudains, comme à la météo, et imprévus. Et ça, il y a un maître mot, c'est la persévérance. Le maître mot, c'est la fermeté. Fermeté. Et tout là-haut, quand nous sommes arrivés, attention. Attention à l'ivresse des sommets. Parce que c'est quand même quelque chose. Hein. Quand vous arrivez, alors premièrement, vous manquez un peu d'air. C'est normal. L'effort plus la rarification de l'oxygène. Mais le spectacle. Jésus montant avec 3 de ses disciples sur la haute montagne. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Transfiguration. C'est la Bible qui le dit. Oui, le succès et la victoire peuvent faire perdre la tête. C'est un peu ce que Jésus a constaté chez les disciples qu'il avait envoyés, les 70, quand à un moment donné, dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, il nous est dit que les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Extraordinaire. « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. » C'est pas l'expérience par elle-même qui est importante. C'est pas mon vécu, c'est pas tout ce que je peux vivre d'extraordinaire. C'est que je suis sauvé et que mon nom est inscrit dans le livre de vie. L'ivresse de la montagne. L'ivresse de la montagne. Attention, on perd pas la tête. Maintenant, voici 3 positions. Je reviens à mon texte. Voici 3 positions des grimpeurs, des escaladeurs, des alpinistes, on peut dire ça comme ça, avec un terme qui nous est propre en Europe. Ceux qui restent en bas d'abord, qui restent au camp de base, vous voulez que je vous lise autrement? Les frères et les sœurs qui restent au camp de base. Les douteurs, les hésitants, les peureux qui ne croient que c'est pas possible. Les sans conviction, qui réclament le confort sans l'effort, qui se contente de temps en temps de venir prendre, repartir et continuer comme s'il n'était jamais venu. C'est malheureux. Mais j'ai l'habitude de dire, et je ne juge personne, hein, je ne juge personne, mais c'est malheureux. Parce que moi je crois que ce genre d'attitude, c'est pas qu'ils vont perdre leur salut, mais ils perdent la vocation que Dieu leur avait donnée à l'origine. le fruit, en quelque sorte, de ce que, pourquoi Dieu les avait appelés. Je ne juge pas. Il y a ceux qui montent et qui s'arrêtent à mi-hauteur, qui trouvent des limitations partout et qui finissent par un esprit négatif. Tout ce qu'ils rencontrent de difficile, tout ce qu'ils rencontrent d'obstacles, parce que des obstacles, je vous l'ai dit, il y en aura jusqu'en haut. Et il y en aura encore plus parce que vous allez vous approcher du haut. Et ceux qui sont limités, qui se limitent, et qui vont s'installer sur un plateau de sécurité en disant « Moi, j'en ai marre de me battre, j'en ai marre de combattre, je suis fatigué. » On peut tous le dire, et moi je le dis quelquefois que je suis fatigué de combattre. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il faut que la conviction qui est la mienne soit plus forte que le reste. Autrement, il y a longtemps que je suis parti. Hein. Et ça, c'est tous les serviteurs de Dieu qui le disent. C'est les frères anciens qui sont fatigués parce qu'ils ont en plus le surcroît du travail, de leur vie professionnelle. Et puis, il y a des gens des frères et des sœurs qui, à cause des soucis familiaux, des soucis de mille façons, eh bien, finalement disent « Maintenant, je baisse les bras ». Mais c'est véritablement monter une tente sur un plateau de sécurité, c'est-à-dire que de dire « Eh bien, voilà, moi, je peux pas aller plus loin ». Va avec la force que tu vas, mon frère et sœur. Et c'est la foi qui va te le donner. Pensant que tout est déjà arrivé, ils se contentent d'une demi-part, mais Dieu veut leur donner la plénitude de la part de leur héritage. Puis il y a ceux qui vont jusqu'au bout, qui atteignent le but, et qui, lorsqu'ils vont arriver là-haut, et là je voudrais toucher du doigt quelque chose que nous recherchons et dont nous ne voulons pas payer le prix, quand on arrive là-haut, il y a quelque chose d'extraordinaire, cette vision panoramique. Ils voient tout et ils voient loin, 360 degrés. C'est pas seulement pour la vue. Mais moi, je vous parle d'une vision maintenant. Pas seulement pour la vue, la splendeur, la contemplation de ce monde créé par Dieu merveilleux. C'est beau. Est-ce que quelqu'un est allé à l'aiguille du Midi? Peut-être, parmi nous. Je ne sais pas. 3800 mètres. Et je peux vous dire que c'est splendide. C'est quelque chose de formidable. Nous sommes allés deux fois là-bas à l'aiguille. Et là, vous voyez les Alpes suisses, vous voyez les Alpes italiennes, vous voyez les Alpes françaises. Mais alors, à perte de vue, c'est extraordinaire. Ne regardez pas en bas parce que... Moi, j'avais un ami qui m'avait emmené sur la crête, large comme ça. Hein, large comme ça pour rejoindre la mer... comment on appelle ça? La mer de glace. Voilà, la vallée blanche. Je lui ai dit, on fait demi-tour, j'ai pas fait longtemps. Hein. C'est incroyable, hein. C'est terrible. Enfin, moi, j'ai pas trouvé un plaisir extraordinaire parce que j'avais peur. Eh oui. Vous savez, donc, quand je vous ai parlé de l'effort, c'est pas l'effort de la grimpette. Hein. Non, c'est l'effort de la foi. Efforce-toi de croire. Bats-toi pour que les incrédulités les doutent, pour ton incrédulité le doute. Bats-toi pour tout ce qui est en train de déchirer finalement la foi que Dieu t'a donnée. Mais bats-toi dans la foi. Fais confiance à Dieu. Ferme les yeux et regarde pas autour de toi. Voilà, c'est bien le problème de Pierre sur les eaux. Hein. Et c'est l'effort de la foi qui fait croître, qui nous fait croître, qui nous amène à nous développer spirituellement et ensuite seulement après, Dieu va nous délivrer. Je dis bien, après la foi, après l'effort de foi, Dieu va nous délivrer. Écoutez, parole mémorable de Marie, de Jésus à Marie et à Marthe. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Là-haut, tu verras la gloire de Dieu. Et Dieu nous réserve des moments de ravissement sur la terre, dans notre corps. Des moments où véritablement nous sommes un peu comme les trois disciples sur la montagne de transfiguration. Et c'est ce que l'Église a besoin aujourd'hui pour être visitée, pour être vivifiée. Non pas de se tuer dans toutes sortes d'activismes, parce que là vous allez vous épuiser, mais on ne grimpe pas la montagne là. Hein. Mais notre vie personnelle, notre contemplation du Seigneur et de sa puissance, de sa gloire. Ce sont encore les Caleb d'aujourd'hui qui disent ces paroles, et je voudrais quand même vous les ramener. Quand il est dit à un moment donné ce propos, verset 11, j'y reviens, je vais relire peut-être plusieurs fois la chose. Je suis encore vigoureux, je suis fort, etc., etc. Donne-moi cette montagne. dont l'Éternel a parlé. Puis il y a un autre texte qui précède tout ça. 50 ans auparavant, quand Caleb avait reçu la promesse de Josué donnée par Moïse, écoutez, quand les espions, les 12, sont revenus, 2 étaient positifs, le reste était complètement déprimé. Et quand ils sont venus faire le rapport à Moïse à ce moment-là, quand il les a envoyés espionner le pays de Canaan, il est dit, les 2, Josué et Caleb, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits, vous connaissez. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes, et nous avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens, les Cananéens habitent également le long de la mer. Alors à ce moment-là, écoutez bien, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse, et Caleb a dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Emparons-nous du pays. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tout est possible. Parce que tu confesses ta foi dans la puissance et dans ce que Dieu est capable de faire. Les vrais Caleb sont en haut. Ouais. Sur la montagne. Et ils grimpent à l'échelle de la foi. On peut quelquefois rater quelques barreaux. Sur une échelle de corde, par exemple. On peut rater une marche. Mais il continue, tranquillement, doucement, fermement, avec persévérance, en dépit et par devers, tous les obstacles. Quand je pense à Jacob qui disait, au moment crucial de sa conversion, bien des années après, il était déjà un homme, certainement déjà âgé, mais il n'avait pas compris avant. Il l'a compris qu'au torrent de Péniel. Et il dira à un moment donné, parce qu'il ne pouvait plus vivre avec sa malheureuse vie, avec ses tourments, avec ses péchés, avec sa duplicité. Il pouvait plus vivre à un moment donné, il faut s'en séparer. Il faut, avec son caractère, avec tout ce qu'il pouvait y avoir du vieux Jacob. C'est comme ça que son nom a été changé. Hein. Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël parce que tu es déjà un homme nouveau. Et on s'aperçoit qu'à un moment crucial de notre vie, c'est peut-être le cas de beaucoup de chrétiens, il y a une conversion, il y a une réponse à l'appel de Dieu, il peut y avoir le baptême du Saint-Esprit, mais à un moment donné, Dieu, maintenant, il nous dit, terminez tout ça. Tu ne seras plus appelé Jacob, tu vas t'appeler Israël. Et c'est à ce moment-là que Jacob, prenant conscience, finalement, de ce qu'il était épouvantable dans sa vie humaine, dans sa vie d'homme, le vieil homme était resté bien vivant. À ce moment-là, il dira devant Dieu, pleurant sur ses péchés, c'est la repentance de Jacob, hein, quand même, hein. Il dira, je ne te laisserai aller, Seigneur, que tu ne m'aies béni. Et la bénédiction, c'était pas pour avoir des biens supplémentaires, c'était pas pour avoir des biquettes supplémentaires ou des troupeaux, etc. Il n'en avait. Il s'était enrichi dans sa vie. Dieu l'avait enrichi. Mais ça le concernait maintenant dans son âme, dans son cœur, dans son tempérament, dans son caractère. Il a fallu qu'il soit brisé pour devenir un homme nouveau. Difficile à comprendre ça. C'est dur. Ah oui. Je ne te laisserai aller que tu m'aies béni. Le courage croit en osant et la peur en hésitant, mes frères. C'est à vous de choisir. Je termine. Une dernière étape dans notre texte. Chapitre 15, verset 13. On donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjat Arba, qui était Hébron. Arba était le père d'Anak. Caleb en chassa les 3 fils d'Anak, Sheshaï, Abiham, Abiman et Talmaï, fils d'Anak. Écoutez bien ceci, frères et sœurs. On donna à Caleb une part au milieu. Donc c'était bien un étranger, c'était un païen, et pour les Juifs c'était un chien. On donna au chien, on peut rire, la part au milieu, dans le cœur du peuple de Juda. On pourrait dire qu'il a eu la part congrue, la meilleure part. Mais attention, c'est pas fini. Et c'est là où ce sera la conclusion. Ce n'est pas fini. Promettre et recevoir l'héritage, c'est 2 choses différentes, on en a parlé. Il faut aller chercher cet héritage entre les mains de qui? Les mains de l'ennemi. Attendez. L'ennemi rôde. L'ennemi est là partout. L'ennemi talonne les enfants de Dieu. Son objectif, c'est de détruire la foi de l'Église, la foi des enfants de Dieu. Et il faut aller chercher, recevoir cet héritage entre les mains de l'ennemi. Et je veux vous citer quelques noms qui va vous mettre tout à fait au courant et vous allez comprendre ce que ça veut dire. Voici des noms qui suivent et qui dévoilent la vraie nature de l'ennemi auquel nous avons à combattre et contre lequel nous avons à lutter. Tout à l'heure, je vous ai parlé des obstacles naturels, mais là, je vais vous parler des obstacles spirituels. Kirjat Arba. Kirjat, c'est ville. Arba, ça veut dire force, ville forte, ville Jéricho, si vous voulez aller par là. Et ça veut dire force de Baal. Vous connaissez ce que ça veut dire Baal? Faux Dieu, démon de l'occultisme, Dieu de l'occultisme, Dieu de la magie, Dieu de la superstition, Dieu de toutes les religions païennes, Dieu de l'idolâtrie, celui qu'on adore. Arba, c'est force de Baal. Anak, ça veut dire géant. Au verset 14, Caleb chassa trois des fils d'Anak. Chassa les trois fils, c'est pas trois, parce qu'il n'y en avait pas d'autres, les trois fils d'Anak. Il y a d'abord Shishaï. Shishaï veut dire violence, veut dire domination et oppression. Ça, c'est le premier. Il l'a chassé. L'évangile, c'est parce que Jésus nous a demandé de faire. Au nom de Jésus. En mon nom, vous chasserez. C'est Éphésiens 6. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des principautés, des autorités, des esprits méchants dans les lieux célestes. Shishaï a été vaincu par, par Caleb. Réalité invisible et spirituelle. Le deuxième, il s'appelle Ahiman, qui signifie albinos, celui qui est blanc. Dans une famille, il y en avait un qui était blanc, plus blanc que les autres. Et vous savez que dans certaines tribus aujourd'hui, dans certaines civilisations, quand il y a des albinos, civilisation primitive, il est vénéré comme un dieu parce qu'il n'est pas comme les autres. Blanc. Il est supérieur. Et on va lui attribuer des pouvoirs occultes. C'est une autorité. C'est le maître de la famille. C'est le parrain, si vous voulez aller par là. Abiam. Et puis il y a le troisième, Talmaï. Son nom veut dire celui qui fait faire le grimaçant. Halloween. Pour faire peur aux petits-enfants. Eh oui, les trois. Donc, l'un, c'est violence, domination, oppression. L'autre, celui qui est supérieur parce qu'il a une coloration qui est différente des autres. Alors, on l'élève comme... On lui apporte la vénération. Et celui qui est grimaçant. Conclusion. On donna à Caleb Hébron comme l'Éternel avait dit. Vous savez ce qu'est devenu Hébron ? Avant, c'était une ville de feu et de sang, de domination, d'oppression, de méchanceté, de crainte et de peur, à travers finalement des cultes occultes, enfin toutes sortes de choses. Eh bien, moi, je voudrais vous dire que Hébron, quand vous regardez dans la Bible, Hébron est devenue une ville de refuge. Elle était une ville d'expulsion, une ville, finalement, eh bien, une mauvaise ville. Elle est devenue une ville d'accueil, une ville de refuge. Vous savez qu'il y en a 7 en Israël, les villes de refuge. Hein. Et vous savez pourquoi elles sont faites ? Pour le coupable afin qu'il sauve sa vie. Ça nous rappelle l'évangile. C'est extraordinaire des choses pareilles. Je termine, frères et sœurs, et je voudrais simplement vous lire. Je ne vais pas vous donner la référence, vous la chercherez. Allez, je vous le dis quand même. Psaume 24, chapitre 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel et qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu ? Qui montera à la montagne de l'Éternel ? La réponse, elle est toute simple. Celui qui a la foi en Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne sa grâce. Celui qui a la foi en Dieu. Demandons que Dieu nous ravive, stimule notre foi ce matin. Et je pense que cette parole peut faire du bien. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te remercions pour ta parole, ta bonté, ta fidélité, les explications. Tout cela, Seigneur, c'est quelque chose de merveilleux et de formidable. Eh bien, je te demande, s'il te plaît, Père, au nom de Jésus-Christ, de visiter mes frères et mes sœurs, de visiter, Seigneur, cette église qui est la tienne. Et qu'ainsi, Père éternel, ceux qui sont restés peut-être sur le camp de base, ceux qui sont restés peut-être à moitié sur les parois et qui ne peuvent pas aller plus loin parce qu'ils ont le vertige, eh bien, Seigneur, dans le nom de Jésus, tu es venu guérir ton peuple. Tu es venu de faire de nous, Seigneur, des Josué et aussi des Caleb. Bénis, passe au milieu de nous maintenant. Révèle-toi et manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Et c'est vrai, pas besoin d'expérience, Seigneur, en effet, évidente pour tous. Là, maintenant, assis sur nos chaises, eh bien, nous pouvons être visités si nous te demandons, mais Seigneur Jésus, visite-moi, Seigneur. Fais du bien à mes frères et mes sœurs qui souffrent d'une façon ou d'une autre. Accorde-leur ta grâce. Point besoin de montrer que, aux uns et aux autres, nous prions tous pour nos frères et sœurs qui sont dans une situation de vulnérabilité, de crainte, de peur, pour qu'ils deviennent des Caleb et qui héritent les promesses de Dieu. Merci Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.